Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Salut les amis.
Salut Charline.
Oh, c'était sympa hier avec Serge Livrosé, le philosophe braqueur.
Oui, le braqueur philosophe.
En tout cas, on s'est bien planté quand même.
Hein?
Bah, oui. Ah ben, on l'avait fait venir pour une raison précise et...
Vous ne faites pas comme certains jeunes hommes qui me demandaient à la fin comment on fait, monsieur, pour ouvrir des coffres.
Voilà, donc c'est pas de bol, là, on saura pas. Non.
C'est un type super.
Ah bah, ça, je sais pas trop quand même.
En tout cas, lui, c'est pour toi.
Ah
écoute,
bon,
comme il a parlé de Guillaume quand même.
C'est une canaille, ce mec-là. C'est une canaille.
Mais non, ouais.
Un type comme ça, ça devrait même pas passer dans les ondes.
Mais
comment
toi,
un type comme ça peut se regarder dans la glace.
Mais il parlait de Cohn-Bendit.
Ah non, c'est pas
moi
certain du
bon,
tout.
En tout cas, moi, ce qui m'a pas plu, c'est qu'il a essayé de foutre la merde dans l'équipe.
Quand on s'introspecte un peu intellectuellement, on est complètement en concurrence avec le voisin. Chacun essaye d'être meilleur que l'autre.
Je l'avais pas vu arriver, moi.
Non, mais,
Charline,
elle avait vu le meilleur.
Ah, oui, si, Serge, on n'est pas en concurrence.
Bah non, si. Vous êtes malhonnête en disant
ça. Il est pas vite gêné, lui,
nous
tiens.
Nous traitez-nous de malhonnête.
Et il en a remis une couche.
Vous avez bien fait rire et vous espérez que vous ferez rire au plus le voisin que vous que l'autre.
On s'en fout, Serge.
On s'en fout, Serge.
On a rien à foutre.
Ah bah, attends, on sent qu'il nous connaît pas.
On se dispute jamais.
C'est vrai, ça.
Bah, bien sûr. Ici, si vous savez que c'est moi le plus marrant.
C'est toi le plus
problème.
Marrant.
Bah,
ça,
oui,
c'est la
ah non,
bah,
non, non, c'est Fromé le plus marrant.
Ah, c'est
Fromé,
ah ouais.
Tu veux qu'on parle du choix des sujets?
Ah, voilà, c'est n'importe quoi.
C'est
quoi.
Moi qui fais
des sujets.
Tu es canaille. Tu n'as rien à faire sur cette onde.
De toute façon, c'est moi qui choisis les sujets.
Oui, ça va,
oui,
ça va,
d'accord.
C'est bien pour ça.
Bah oui.
Bonjour, la France Inter. Et bienvenue dans la petite chapelle de la Sainte Disruption. Là où en ce jour de l'Ascension, le Jésus de l'actualité va rencontrer ses disciples de la blague après la résurrection de ces trois informations. Des agriculteurs réclament de pouvoir cultiver du cannabis à usage thérapeutique. Donc, pas le cannabis plein de THC qui fait rire, mais du cannabis contenant du CBD qui relaxe et soulage les douleurs. La Creuse se rêve pionnière en la matière.
Tu sais, mamie, quand Dominique Voynet fume un pétard, c'est pas 25 par jour.
Les nouveaux Fred et Jamie se trouvent sur YouTube où ils font des vidéos de vulgarisation. En science, art ou littérature, ce sont désormais des anonymes avec de nouvelles façons d'apprendre qui nous font partager leur savoir.
Pour faire ta propre cire orientale, il te faut du sucre, de l'eau et du citron. Et si tu remplaces le sucre et le citron par du veau et de l'huile et que tu rajoutes des carottes et des tomates, ça te fait un osso bucco.
Entre deux réformes, l'Élysée nous envoie des images de Nemo le chien, Agathe la poule ou Yuan Meng le bébé panda qui a pour marraine Marie-Antoinette... Brigitte. Les animaux jouent un rôle dans le message présidentiel, ils servent à nous attendrir.
Et tu remarqueras qu'après leur passage, il n'y a pas une crotte. Je me suis bagarré pour y arriver.
Oui, alors, comment on va transiter?
Comment on va faire une transition?
Notre animal de compagnie.
Il a un nom de petit animal, oui. À poil doux, le viserec.
C'est vrai. Petit singe polonais.
C'est une espèce endémique, on la trouve ici.
Bonjour les amis, et bonjour à la belle équipe que je vais vous présenter maintenant. À 17h20, ce dimanche, 16h, je suis allé aux adieux d'Hervé Villard à l'Olympia, et devant moi, un siège était vide. Je pense que c'était le vôtre, Djoubaka, vous étiez où?
Non mais j'étais pas là.
Oui, bah, je sais bien, oui.
Non, mais justement, c'est pas pour moi d'ailleurs ce siège.
De quoi on va parler?
Ben, des bestiaux, ça va pas trop vous changer.
Dans la musique.
Ouais.
Très bien. À 17h30, lui, de la vie générale, il n'est pas très saint d'esprit. Et pourtant, il est parti à la recherche du Saint-Esprit.
Oh, c'est beau.
Aujourd'hui, c'est vous, Guillaume Meurice.
C'est beau et c'est vrai. Bonjour à tous. Moi, je suis allé à une messe, et pas n'importe laquelle. Une messe qui permet de payer la quête en carte bleue. Un système qui plaît à tout le monde.
Eh ben, moi, il me plaît pas.
Ah, ben, presque. Presque tout le monde.
Et à 17h40, celle qui nous vient de si loin pour nous prouver que nous sommes si proches, c'est vous, Rukyata Ouedraogo. Bonjour.
Bonjour, Alex. Bonjour, tout le monde.
De quoi on va parler?
Ah, aujourd'hui, nous allons parler de la traversée de ma nièce Batorma.
toujours très famille. Hein.
Et n'oubliez pas que nous sommes présents dans un monde virtuel. Sur Facebook,
vrai,
nous avons une page
bien
par
sûr,
Jupiter. Et sur Twitter, n'hésitez pas à user, abuser du hashtag
je
par
suis
Jupiter.
Là, je suis là, je vous dis.
Allez, je me tourne vers celui que nous avons nommé PDG sous CDD d'une heure. Il faut juste le temps de couler la boîte, quoi. Vous découvrez la nature en passant vos vacances à l'île de Ré et en traînant au Muséum d'Histoire Naturelle de La Rochelle quand vous faites le mur pour échapper au pensionnat. Grâce à une bourse, vous parcourez la France pendant 6 ans pour présenter une exposition itinérante sur les animaux mal aimés. Vous intégrez ensuite l'émission de Dorothée, Les Visiteurs du Mercredi. Vous présentez plusieurs émissions, dont Animalia. Et depuis 1986, vous présidez la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux. Et vous avez aussi animé une émission sur cette antenne avec Elisabeth de Fontenay, aussi une chronique l'année dernière dans la matinale. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes...
Alain Bougrain-Dubourg.
Oui, bien sûr.
France Inter, Charline Vanunacker, Alex Vizorek. Par Jupiter.
Bienvenue Alain Bougrain-Dubourg.
Je suis ravi d'être là. C'est vrai que c'était avec Alain Baraton et Patricia Martin.
Tout à fait.
C'était bien agréable de
dans
se retrouver le matin.
Dans le 7-9 du week-end. Voilà. Alain Bougrain-Dubourg, vous venez nous voir pour un livre, Lettres des animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes, aux éditions Les Échappées. Attention, gros dossier sur lequel s'est penché à la fois Alex et Guillaume.
Voilà, pour avoir deux avis. Deux salles, deux ambiances. Non, je vais...
On commence par celui qui s'en fout complètement des animaux.
Alors, c'est plutôt moi. Non, tout pas moi, avec une bonne sauce, moi j'ai jamais rien contre. Mais expliquer le principe du livre. Parce que vous vous mettez à la place de différents animaux pour écrire à des gens qui leur veulent pas que du bien. Voilà. Hein, j'arrivais pas à le dire. Je lis 2-3 chapitres, comme ça on a une idée très claire. Lettre du cochon à l'éleveur, lettre du blaireau au déterreur, lettre du taureau au torero, lettre du loup au berger, ou du cheval à l'hypophage, lettre du singe à l'homme. Donc voilà. Moi, ma question était, est-ce que c'est tout ce qui manque à l'animal, c'est de pouvoir nous expliquer les choses? Parce que si de temps en temps, il y a un poussin, un cochon qui prenait la parole, est-ce qu'on le vivrait moins bien, ce qu'on lui fait?
Peut-être. En tout cas, il manque l'image. On a mis un couvercle dans l'histoire de l'humanité, même depuis les premiers philosophes grecs qui parlaient déjà de la condition animale, on a mis un couvercle sur la souffrance animale. Et aujourd'hui, grâce à des gens comme L214, on n'a peut-être pas le son de l'animal, encore que, mais on a l'image. Et on découvre vraiment une horreur inacceptable. Inacceptable parce que cette souffrance, on peut la faire reculer. On a les moyens de le faire. D'autres pays d'Europe l'ont fait, pas la France. Alors, dans cet exercice, j'ai voulu donner la parole aux animaux, quitte à flirter un peu avec l'anthropomorphisme. Mais je me suis dit que c'était d'abord plus agréable à faire au niveau littéraire, de se mettre dans la peau d'un animal. Et on constate qu'il y a une évolution très claire dans notre connaissance à l'égard de l'animal. L'éthologie nous a amené à progresser. Et cet animal machine de Descartes, il se révèle en vérité très très proche de nous. Il peut mentir, il peut tricher, il peut rire, il peut être joyeux, il peut être triste, il peut attendre, il peut espérer. Il éprouve tant de choses que nous partageons. Et donc, oui, il y a un peu d'anthropomorphisme, mais il y a aussi un cri terrible de ces animaux qui ne peuvent pas s'exprimer. Et sans jouer des violons, Gandhi disait « On juge la qualité d'une société à la manière dont elle se comporte à l'égard de l'animal. » Et vraiment...
On est nul.
C'est inacceptable.
Mais est-ce qu'il y a un ordre d'importance? Parce que entre l'être de l'ortolan au braconnier et l'être du rat de laboratoire au chercheur, est-ce qu'il y a un ordre d'importance? Oui, des ortolans, il y en a peut-être de moins en moins, mais des rats de laboratoire, peut-être aussi que ça nous permet d'avancer.
Bien sûr, bien sûr. Non, mais j'ai bien compris. Il ne faut pas se détacher d'un seul coup de l'animal et de son usage, hein, disons clairement les choses, bien que les véganes que je respecte aient ce point de vue. Moi, je crois qu'on peut cohabiter. Mon urgence, c'est de faire reculer la souffrance animale et... On va parler peut-être des animaux du président. Bien, permettez-moi
qui
de
souffre,
dire...
Qui souffre. Enfin, faut le dire. Vous aimeriez, non? Vous aimeriez être à quatre pattes devant Macron? Non. Castaner.
Ah, demandez à Castaner.
Bon, on prendra ça tout à l'heure.
Non, je voulais que Guillaume intervienne aussi. Qu'est-ce qui vous a parlé le plus, vous qui êtes en première ligne de ça, mais et on vous entend souvent là-dessus?
Je ne sais pas si je suis en première ligne.
Mais on vous entend souvent.
Je suis dans les lignes. Quoi,
voilà,
ouais,
c'est ça.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on pourrait le relier. On sait que l'homo sapiens, c'est un animal assez égoïste quand même. Comment on pourrait relier la défense des animaux et leur bien-être à nous, finalement? J'ai l'impression que tant que ça ne nous touche pas personnellement, on va
bien
continuer à en avoir rien à foutre.
Alors, je crois qu'il se passe pour la première fois un événement formidable dans l'histoire de l'humanité. C'est que, notamment, grâce aux circuits sociaux, enfin à Internet, aux images que l'on véhicule, je crois qu'on ne peut plus continuer de cette manière. Voyez-vous, il y a eu, il y a eu des gens admirables, il y a eu Hugo, il y a eu Lamartine, il y a eu Léonard de Vinci qui ont traité de façon remarquable nos relations normales que nous devrions avoir avec l'animal. Ils n'ont pas été entendus. Il y a la Renaissance où d'un seul coup, on va faire la lumière sur l'obscurantisme et on va révéler les animaux tels qu'ils sont, des êtres sensibles.
J'ai l'impression que c'est tous les mêmes mouvements qui luttent contre la religion, parce que la religion...
Alors la religion, c'était une horreur, notamment les religions monothéistes, hein, évidemment, qui sont toujours gardées de se rapprocher de l'animal. Au mieux, l'animal est pris sous l'aile de chacune des religions, du symbole, mais voilà. Et aujourd'hui, même mes 68, on en parle beaucoup en ce moment, moi je suis un enfant de mes 68, j'avais 18 ans à cette époque, et j'ai pensé que ma génération allait cohabiter, peace and love, vivre avec les animaux de façon délicieuse, le Larzac, tout ce qu'on veut, que dalle. Et je pense qu'aujourd'hui, en voyant ces images de la souffrance industrielle, enfin on va être condamné à réagir, et je le dis à Monsieur Macron qui n'a rien fait, sauf adopter un chien, ce qui est admirable, mais un peu insuffisant.
Alain Bougrain-Dubourg, donc le livre s'intitule « Lettres des animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes ». C'est paru aux éditions Les Échappées. Alain Bougrain-Dubourg est avec nous jusqu'à 18h. Oh, on a le temps d'en profiter, c'est chic. À tout de suite.
C'était une fois, dans l'ouest encore sauvage, un peintre armé de lettres, un vrai tueur à gages. Avec la jeune Houston, il vanne et se pavane. Il flambait des dollars, 30 ans avant Swagman. Jadis, il mélangeait à l'arrière des saloons des mélodies châtiées au rythme boum, boum, boum. Et dans les plaines immenses, de vieux tubes en faïence, la magie de Gainsbourg a peuplé le silence.
Super King's Bar.
De la cité, le jeune scribe chétif a tatoué sur le cœur l'étoile d'un shérif. Il masque ses démons en annonçant des psaumes qu'il note sur sa paume dans une rôle ce fantôme. Flic, flank, spliff, stupé, sing, sing, bébé et petite pépé, pile-up comme bling, bling. On peut frotter des lampes et écumer 15 bars. Ça ne fera pas apparaître le génie d'un Gainsbourg.
Super King's Bar. The man with the cabbage. Super King's Bar. He knows the tricks of the trade. Super King's Bar.
C'est l'homme à la tête de chou.
Super King's Bar.
L'homme à la tête de chou, chou, chou.
Super King's Bar.
C'est Joub.
Ah bah c'est Solar Super Gainsbar.
Ouais, avec Maury Nango.
Eh bah tiens.
C'est vous qui avez choisi.
Ouais.
Programmation musicale, Joubi.
C'est moi.
C'est Alain Bougrain-Dubourg, notre invité aujourd'hui. Et pour l'entourer, Alex.
Chewbacca, bah oui, ça fait mal, mais il est là. Qui a tabou et Guillaume Meurice, évidemment. Oui, vous pouvez pas rater un jour comme aujourd'hui.
Ah, Alain, attention, c'est l'information là. Hein. On est au taquet.
Les étudiants, ils doivent comprendre une chose, c'est qu'il n'y aura pas d'examen en chocolat.
Le journal de presque 17h17.
Mais n'oubliez pas qu'ici, on étudie plus pour réussir plus.
Et on commence par les titres.
En ce 10 mai, en France, outre l'Ascension, on fête également l'abolition de l'esclavage.
Oui, profitons-en parce qu'avec Macron, rien ne dit qu'à la fin de son mandat, il ne chercherait pas à la réétablir par ordonnance.
Le président, qui a Aix-la-Chapelle en Allemagne, a reçu le prix Charlemagne pour son engagement en faveur de l'Europe.
Exactement, Charlemagne, ça a dû rappeler des souvenirs à Gérard Collomb, qui je crois était dans la même classe de CPI.
Et de brèves.
Oui, j'ai récemment moi reçu le prix Ivre Virgule au Festival de la Brève de Cognac. Et on commence par l'international.
En Syrie, la tension est brusquement montée d'un cran cette nuit entre l'Iran et Israël. Emmanuel Macron appelle à la désescalade.
Et ça, pour la désescalade, il faut demander au premier de cordée. Évidemment, c'est assez logique.
La rencontre Kim Jong-un-Donald Trump n'aura pas lieu à la frontière intercoréenne.
Non, on espère qu'elle aura lieu sur un vol de la Malaysian Airlines, si c'est possible.
Passons à la France.
Oui, hier au Sénat, Nathalie Loiseau, ministre des Affaires européennes, a créé la polémique en parlant des migrants.
Lorsque l'on arrive du Sud-Soudan, on peut décider de faire du shopping de l'asile et trouver qu'on est mieux en Suède qu'en Italie.
Le shopping Tranquille. De l'asile. Alors, on ne sait pas si ça existe, mais ce qui est sûr, c'est qu'au gouvernement, ils font du shopping du FN.
Bah, la ministre s'est toutefois excusée depuis cette malheureuse formulation.
Oui, mais elle a beau s'appeler Loiseau, elle n'est clairement pas pour la migration.
Jeu de mots animalier.
C'est cadeau. Alors.
Passons à Marlène Schiappa.
Oui, sans transition, hein, avec les oiseaux. Elle était invitée à C'est à vous. Et c'est vrai que cette histoire de fête à Macron, c'est toujours pas clair dans sa tête.
On peut dire aussi, dans ces cas-là, on va au coiffeur. Au jour d'aujourd'hui, il croise la voiture à sa mère. Ouais. C'est pas parce que c'est un usage qu'il faut l'utiliser et le véhiculer.
C'est une tournure populaire qui a un sens particulier différent de faire la fête de...
Dans ces cas-là, il faut juste être clair et pas avoir ce double discours de dire non, c'est une fête en réalité, etc. Faire sa fête à quelqu'un, c'est lui casser la gueule, pardon d'être clair.
Mais voilà, c'est ça. Elle a piché, il aura fallu 4 jours. Ah là là. Mais non, mais le problème de Marlène, c'est qu'elle répond Macron quand on lui pose n'importe quelle question. Après, sur le plateau de C'est à vous, les candidats à The Voice sont arrivés et Anne-Elisabeth Lemoine les a interrogés.
Vous souhaitez tous gagner au fond de vous.
Bien sûr, ça serait cool.
Non, on donnera un fond.
Vous allez tous vous battre.
Ils souhaitent gagner, mais ils sont très dans la bienveillance. C'est hyper macroniste, en fait.
Bim, Marlène nous fait du placement de produit. Elle est au taquet.
Et ils sont très dans la bienveillance, ça se dit, ça, apparemment.
Alors là, écoutez, vous démerdez avec Marlène.
Bruno Le Maire a déclaré que pour le prochain PDG de Air France, il souhaitait un bon connaisseur de l'aérien.
Mais c'est brillant, ça fait 50 ans qu'ils foutent des bouchers charcutiers. Tu m'étonnes que ça fonctionne pas, ils sont forts.
Cette page politique avec Emmanuel Macron, qui a donc reçu le prix Charlemagne.
Et ça a dû lui faire plaisir parce que Charlemagne, c'est quand même le mec qui a inventé l'école, donc qui lui a permis de pécho. Donc vraiment, la boucle est bouclée pour Manu.
Société, et on va en parler tout de suite. Oui. La Creuse réclame le droit de produire à titre expérimental du cannabis pour usage médicinal.
Mais moi, je vous le dis, je suis pour, parce que ça permettra aux gens qui habitent la Creuse d'oublier qu'ils habitent la Creuse. Et c'est important, déjà.
Passons bref.
Oui, Dordogne, à 86 ans, elle roule à 160 km/h en plein centre-ville. Elle voulait pas rater le début de question pour un champion, à mon avis.
Et la dernière,
c'est un son. Jean-Luc Lahaye était invité à Touche pas à mon poste.
T'as toujours dit que tu aimais les filles plus jeunes que toi.
C'est vrai. D'ailleurs, il y a une devise que j'ai toujours en tête. C'est un grand philosophe à qui on reprochait souvent de sortir avec des filles beaucoup plus jeunes que lui. Il avait répondu, je leur raconte ce que je sais, elles me disent ce que j'ai oublié.
Ouais, et ce philosophe, c'est Johnny Hallyday, à mon avis. Et puis, il a enfin posé la question qui m'intéresse moi un petit peu quand même.
Si tu te voyais avec une femme plus âgée...
Bah non.
Vraiment, donc...
Je me vois pas me balader qu'une fille de 65 ans dans la main, non. Sincèrement,
on te croit, Jean-Luc. Donc moi, je suis prêt à sortir avec Jean-Luc. Je prends la mère et puis il prend la fille.
Et ça pourra se passer dimanche, car vous jouez à Bourg-en-Bresse, Alex.
Bourg-en-Bresse. Attention, parce que je vais me faire engueuler en arrivant si vous prononcez pas bien.
Bourg-en-Bresse. Voilà. D'accord.
Ne me demandez pas pourquoi, c'est Marlène qui décide.
C'est Alain Bougrain-Dubourg qui est en notre compagnie, le président de la LPO, la Ligue Protectrice des Oiseaux, et l'auteur de Lettres des Animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes, paru aux éditions Les Échappées. Alain Bougrain-Dubourg qui est aussi dans la matinale de Wendy Bouchard sur Europe 1, donc toutes nos condoléances, Alain, pour être sur Europe 1.
Vous avez pris le bus quand même, comme on dit.
Les week-ends, ça se passe très bien.
Allez, voici le premier sujet avec vous, Alain Bougrain-Dubourg. Il y a du pétrole dans la Creuse. Oui, car les agriculteurs de la région veulent cultiver du chanvre à usage médical et produire un pétrole vert, donc du cannabis thérapeutique pour soulager les douleurs et remplacer des traitements lourds. Bref, la Creuse se lance dans une révolution médicinale, médicale. Voici une métaphore.
Qu'est-ce que tu veux ?
S'il vous plaît, je voudrais parler à Monsieur Vito.
C'est moi.
Je sais ce que vous faites.
veux en faire partie.
Ah ouais? Qu'est-ce que je fais?
Je veux vendre de la drogue.
Oh mais mamie, tu t'écris dans un club du troisième âge ici ou quoi?
Non mais attendez, j'ai tenu un petit commerce pendant 35 ans et ça marchait très bien, vous savez.
C'est Bernadette Lafont dans Paulette, un film de Jérôme Enrico. Ouais. Alors, Alain Bougrain-Dubourg, voilà quelques agriculteurs dans la Creuse qui disent, mais pourquoi ne pas produire, on peut cultiver le chanvre, ils le font déjà d'ailleurs pour l'huile, pour de l'isolant thermique.
Tout à fait, qui marche très très bien. Voilà. Je suis également au Conseil économique, social et environnemental et on a fait un travail qui a permis de valoriser cette plante tout à fait exceptionnelle qui est sous-exploitée et qui peut avoir une utilité environnementale non négligeable. Alors, moi, je suis plutôt pour dès lors que ça favorise une diversité de cultures, que ça peut être fait dans un cadre biologique. Et puis, je rappelle quand même que la morphine existe, hein, les dérivés de l'opium. Et donc, on peut parfaitement imaginer. Alors après, il ne faut pas de dépendance. Il faut que ça se passe sous un contrôle. Mais l'idée ne me choque pas, d'autant que je crois que d'autres pays sont déjà engagés dans l'usage
quand on regarde
du
chanvre. Il y a 40 pays qui l'ont autorisé. Voilà. Quand on regarde la carte d'Europe, la France est tout à fait isolée. Alors, avec toutefois la Belgique, mais la Belgique a dépénalisé le cannabis, donc c'est un peu différent.
Mais ça donne quoi chez vous
là ça se passe bien.
Des émissions de 17 à 18 sur France Inter.
Tout s'explique.
C'est un peu la Jamaïque, mais sans le soleil.
Mais donc, ça pourrait être une solution d'avenir. C'est-à-dire, il faut rappeler qu'il y a, il y a quasiment pas de THC dedans, c'est une autre molécule. Ouais. Alors, pour l'instant, les scientifiques sont un peu divisés à savoir si ça crée l'accoutumance ou pas.
Ça
peut être une solution d'avenir qui concilie et la santé, la médication naturelle et... Et pour les agriculteurs, une manière de...
Une nouvelle forme de ressources qui n'est pas négligeable. Et dans le monde agricole, en tout cas, dans tout ce qui n'est pas industriel et choquant, je le dis clairement, tous les pauvres agriculteurs qui cherchent à se diversifier, ça peut être une ouverture avec l'élevage, un certain nombre de... faire des rotations de cultures.
Mais la France, elle semble un peu bloquée. C'est tout ce qui est les questions de santé. Il y a une espèce de traumatisme qui fait qu'on est dans les principes de précaution.
Oui, je crois que c'est la vache folle, c'est le sang contaminé, c'est bien d'autres choses.
Il y a un gros lobby pharmaceutique aussi.
Et puis, il y a un énorme lobby pharmaceutique. Alors moi, le principe de précaution, je suis pas contre. Mais vous savez qu'on a tendance à croire que l'objet, c'est de bloquer un système. Pas du tout. C'est de faire attention, d'être attentif et de contourner les difficultés pour éviter d'aller dans le mur ou d'avoir des conséquences qui seraient regrettables. Mais ça ne veut pas dire du tout qu'on n'a pas, au contraire, intérêt à développer ce genre de choses.
Donc cette révolution viendra peut-être de la Creuse.
Il va falloir... très bien. C'est un très beau pays, une très belle région.
Vous souscrivez. Ouais. Sans transition possible, Chewbacca.
Ah ben pourquoi? C'est comme ça, quoi.
Hein, comme ça.
Allez, juste une anecdote là-dessus. Ce week-end, j'étais à la Cambrousse et il y avait deux vieilles dames à côté de moi qui parlaient, dont une, le petit-fils, elle a un peu la maladie de Parkinson, lui a fait des tisanes à partir de zèbre, de bœuf. Ouais. Et ben quand elle boit sa tisane, ça va vachement mieux, elle peut faire la cuisine, ça a changé sa vie, quoi. Donc oui, légalisons partout, ça sera très bien. Mais parlons d'autres choses, parlons bestioles et d'autres animaux, parce que oui, nous leur devons beaucoup. Parce que dans l'histoire de la musique et des compositeurs, en fait, le comportement animal, leur façon de bouger, de chanter ou de produire des sons, ont été pour le monde de la double croche, franchement, une source inépuisable d'inspiration. On observe les animaux, grâce à ça, on a défini, en fait, des harmonies, des rythmes et donc des danses, quoi. C'est un anthropomorphisme un peu à l'envers, presque à l'envers, quoi. En fait, on leur a tout piqué. Et je vous cause pas de la musique classique, ce serait long et Alex serait déjà parti en vacances dans la Creuse. Toutefois, on peut toujours écouter le Carnaval des animaux de Saint-Saëns ou le Microcosmos de Béla Bartok. Et un titre en particulier que j'adore, Ce que la mouche raconte, prochaine sonnerie de portable d'Alex. Et par exemple, vous connaissez tous la tarentelle, ce qui est une forme musicale de danse italienne où l'on imite en fait une araignée, la tarentule, ce qui a donné la danse et le rythme, quoi. vraie fraternisation avec le monde animal. Avec le ragtime aux USA, en fait, il y a une mode de danse calquée sur les animaux qu'on appelle Animal Step. Et on dansait donc, alors là je vous le fais en français parce qu'en anglais c'est pas possible, l'étreinte du lapin, le grattement du poulet, le pas du crabe, le plongeon du kangourou, le saut de la grenouille, la reptation de l'alligator, ça c'est pour Guillaume. Et à chaque danse, en fait, correspondait un rythme, des pas, qui allait de pair avec la marche du chameau, l'aile du pigeon. Et ces musiques et ces danses, en fait, elles se répandaient à la vitesse des danseurs. Donc, d'une semaine sur l'autre, en fait, on avait oublié le ragtime de l'opossum et on avait le bouilli du perroquet qui arrivait, quoi. Donc, c'est du sport et de l'imagination. Pour un Gus qui avait jamais vu un kangourou, il avait le temps de passer quelques heures aux eaux de Brooklyn à attendre qu'il plonge. Là, c'était un peu plus dur, quoi. Donc là, on est avant 29, la crise de 29. Et puis, cette mode, elle va survivre, en fait, à la crise de 29 et elle revient dans les années 40. Il faut dire que les parents préféraient, à ce moment-là, avec le swing, le pré-rock'n'roll, voir des gamins excités jusqu'au cerveau, mimer des pingouins, hein, plutôt que de les voir hyper collés, serrés, sans pilule du lendemain, quoi. Donc on danse, mais pas bestias, quoi. Et même Chuck Berry, qui a vécu cette époque, avait une signature sur scène qui était la danse avec son pas de canard, qui l'a rendu hyper célèbre. Bon, bref, voilà. Bon, on est à Memphis, et il y a un homme qui a vécu toutes ces modes, qui les a vues naître, et même qui va en créer. Et ce gars, c'est Rufus Thomas. Alors lui, il a commencé à aller sur scène à partir de 10 ans. Il est danseur au départ, danseur de claquettes, et puis après, il va jouer des rôles un peu plus tard dans des vaudevilles. Et comme c'est un enfant qui a pas appris la comédie, en fait, il singe des animaux pour personnaliser tous les caractères qu'il va avoir sur scène et s'en servir. Donc il va avoir un rapport et une éducation, en fait, à l'imitation de l'animal, quoi. Plus tard, il prend un boulot fixe. Le soir, il bosse dans une usine de textile. Et puis, il chante dans les nightclubs, mais il est surtout DJ radio, quoi, Memphis. Et un DJ hyper important. Il passe des disques. Il est super. Et donc, à cette époque-là, quand les mecs démarraient leurs émissions, il y avait un moment de préparation, en fait, où on demandait aux auditeurs de pousser tous les meubles, de faire de la place et de danser, quoi. Et à ce jeu-là, franchement, Rufus Thomas, c'était le meilleur dans sa catégorie, quoi. Et il obtient un de ses premiers succès, en fait, Beer Cat, en parodiant une chanson qui s'appelle Hound Dog, qui a été créée par Bill Masterton et qui a été reprise par Elvis, que vous connaissez. Et qui
Elvis, parle... j'ai déjà entendu ça.
Voilà, et qui parle d'un chanteur chien bassé avec un caractère franchement humain, quoi. Et Rufus Thomas, il va se souvenir, en fait, de toutes les danses de son enfance et créer un répertoire, une vraie ménagerie, quoi. Walking the dog, le chien, chicken scratch, do the funky penguin, le pingouin, the funky birds. Bref, il a un zoo à lui tout seul, mais vraiment, quoi. Et c'est particulièrement sur ses chansons qu'il a fait son succès. Bref, lui, comme nous, on doit beaucoup aux bestioles parce que nous n'aurions jamais pu entendre do the funky chicken.
Show you. Now y'all heard of the popcorn, y'all heard of the dog, and you heard about all of them other dances. But now there's a brand new dance that's going around. I want to show you exactly what I'm talking about. I'm talking about the funky chicken. Y'all ready? I say y'all ready. Okay, here we go. You raise the left arm up. And you're right on too. Let me tell you just what to do. Start boom on the flapping. Start the feet to kicking. That's when you know you're doing the funky chicken. Second spasm. You put both arms up across your face. Your knees start wiggling all over the place. You flap your arms and your feet start kicking. Then you know you're doing the funky chicken. Oh, oh. Hey, hey. Oh, I'm feeling it now. I feel so unnecessary. This is the kind of, this is the
the kind of stuff to make you feel like you wanna do something nasty. Like weigh some chicken gravy on your white shirt, right down front. Here we go, y'all. Your white boat arms and your white boat feet. You together, baby, you're right on the beat. You flap your arms and your feet start kicking. Then you know you're doing the funky chicken. Oh, oh, it's all right. Do the funky chicken now. 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 Do the funky chicken now.
Rufus Tomate, Do the Funky Chicken.
Yeah.
Merci.
Ça danse comme ça.
Ouais, avec en ajoutant les bras comme ça.
Je vais dire qu'on a fait une chronique sur les animaux dans la chanson et qu'on n'a pas cité Gentil Dauphin Triste de Gérard Lenormand et qu'à un moment les gens aussi doivent tout savoir.
Ah bien, merci France Inter, donc France Inter. Parce
que c'est une très belle chanson.
Vous n'êtes pas sur Radio Nostalgie.
Pas encore.
En compagnie d'Alain Bougrain. On sait tous que c'est là que vous allez finir, Vizorek. Avec Alain Bougrain.
J'espère que je vous entraîne pas.
Voilà, Bougrain du Bourg.
Oui, son livre.
Salut.
Oui, son livre.
Lettre des animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes.
Édition Les Échappés. Exactement. Et Guillaume Meurice, fervent défenseur de la cause animale, est là.
Mais là, je voudrais faire un petit hommage à un petit gars qui nous a quittés il y a presque 2000 ans maintenant. On l'appelait Jésus, le gars Jésus. Bon, c'est un gars qui avait un projet assez audacieux à la base. Aimez-vous les uns les autres. Et qui a fini cloué sur deux planches. Je le dis parce que je sais que Kali nous écoute et qu'il a à peu près le même message dans ses chansons. Donc fais gaffe quand même à toi. Alors, le Jésus, je vous passe les détails, mais comme il avait un petit peu de piston de par son père, qui était quand même assez bien placé, il a ressuscité, mais il a dit ça va pas se passer comme ça, mon père c'est un dingue, et puis il est reparti, et effectivement depuis son père se venge en envoyant sur Terre des calamités qu'on retrouve aujourd'hui notamment dans la playlist de France Inter. Mais tous les ans, on célèbre son départ au gars Jésus avec des messes, dont une qui me plaît beaucoup, qui a lieu à la paroisse Saint-François de Molitor, qui a choisi un système de quête assez particulier, une quête électronique avec paiement par carte bleue, une sorte de Uber-quête. Alors je suis allé y faire un tour pour savoir d'abord si c'est pas contraire aux évangiles.
Non, il n'y a rien dans les évangiles qui contredit ça.
Jésus, il aurait validé le paiement électronique ?
Sûrement, les modernes, il aurait sûrement validé.
Ok, il aurait validé. C'était pour être sûr quand même de mon coup, c'est vrai que le gars était à la pointe de l'innovation, hein. Il multipliait les pains, il avait des applis qui soignaient les lépreux, il était dans un vrai process disruptif. Donc ça, c'est chouette, comme le paiement électronique dans cette église.
Je me souviens que quand j'ai lu ça, que c'était la première, j'ai dit, mais c'est formidable, plein de fois, j'ai pas d'argent, ou alors j'ai que 20 euros ou 50 euros.
Ah oui, c'est que vous voulez pas donner autant.
Ben, j'ai pas envie de donner 50 euros, ça c'est sûr.
Oui, alors je dois préciser que l'église est en plein cœur du 16e arrondissement. Donc les gens, sur eux, ils ont 20 ou 50 euros. Hein. Les pièces, ils savent même pas ce que c'est. Donc voilà, avec ce système, on n'a plus d'excuses pour ne pas donner.
Exactement, on n'a plus d'excuses pour ne pas donner. Je suis d'accord avec vous.
Est-ce que ça pousse pas à la consommation de dons de quête ?
Oh, c'est pas une façon de parler comme ça, voyons, monsieur. Vous êtes inculte.
Oh, bah, attention, oh là là, on garde son calme. Je vais me faire fouetter à coups de billets de 200 boules, ça va pas traîner. À moins que inculte, ça soit un jeu de mots. Oh. Inculte. Ah, et là, il y a peut-être une place à gratter sur France Inter comme chroniqueur. Alors, ouais, c'est vrai que moi aussi, je suis un peu dans le coup des jeux de mots. J'ai tenté un truc sur cette fabuleuse avancée technologique.
Oui, ça fait un gain de temps. Et puis pour la paroisse, effectivement, c'est plus facile.
Ça fait des opérations tout seul.
Absolument, exactement.
On peut dire que c'est les opérations du Saint-Esprit, finalement.
Tout est relatif.
Oh bah, attendez, je débute en humour catholique, ça va. Les premières parties du pape au JMJ, c'est peut-être pas pour tout de suite. La tournée avec le diocèse du rire, c'est pas gagné. Bon, alors en tout cas, beaucoup de gens sont contents, même si des fois...
Oui, c'est bien, mais une ou deux fois, ça m'est arrivé de perdre une minute, enfin, 10 secondes, quoi.
Ça bug un peu, quoi.
Ça bug un peu.
Ouais, alors c'est vrai que les voix du Seigneur, ben, parfois ça capte mal. Hein. Au paradis, il n'y a pas la 4G, il n'y a pas le Wi-Fi. Donc des fois, il faut attendre un peu. Mais dans ce cas-là, moi je vous conseille d'envoyer directement un RIB avec une autorisation de virement directement à la paroisse. C'est vrai qu'eux, ils ont les canaux, donc ils se démerdent après pour redistribuer. Ils font ruisseler, comme on dit. Alors pour être tout à fait honnête, il y a aussi des gens qui sont quand même vachement mécontents.
Je suis assez mitigée. Après, chacun fait comme il veut. Moi, je suis de l'ancienne génération, donc je préfère la quête normale.
Alors c'est quoi qui vous déplaît dans cette nouvelle forme ?
Oh, c'est le fait de passer sa carte bancaire en pleine messe, voilà.
Et ils peuvent vérifier combien vous donnez, du coup ?
Absolument.
Ouais, ça c'est peut-être pas terrible.
C'est pas terrible, et puis voilà.
Et voilà, parce qu'avant tu pouvais mettre des jetons de caddie. Hein, ça faisait un bruit de pièce, comme ça. Tu baisais tout le monde, mais là c'est compliqué. Si tu payes pas, ça va se voir. Et puis c'est connecté, même la NSA saura que t'as pas payé. Et là, pour tes prières pour que Fillon revienne et soit président, c'est foutu. Mais bon, c'est ça, bah ouais, bah c'est ça, c'est la nouvelle église.
J'ai appris aujourd'hui qu'il y avait même des applications pour récupérer les. Comment ça s'appelle les lectures. Sur le smartphone.
Ah oui, les lectures des textes directement sur le smartphone.
Sur le smartphone, oui.
Ça devient une
digitale, l'église digitale.
L'église digitale, on y est, hein, qui cherche voilà, à toucher le plus grand nombre. Alors à toucher davantage de 7 que 77 ans, mais là, c'est pas le sujet. Le sujet,
on
c'est
la voyait arriver,
ouais,
salaud,
parce que c'est par contrat. On est obligé d'en placer une. C'est le cahier des charges. Le sujet, c'est l'église qui évolue. Hein, on dit toujours que c'est archaïque, l'église, et ben non.
Il faut être avec son temps. Il faut vivre avec la société. Il y a des adaptations qui sont bonnes, des adaptations qui sont mauvaises. L'avortement, vous avez 30 ans, ben non.
Oh, l'avortement, vous n'avancez pas là-dessus.
Ah non, 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 pas du tout.
Mais sur le paiement électronique, oui.
Ah oui, voilà.
L'IVG, non, le paiement électronique,
voilà.
Oui.
Voilà,
on avance sur un petit pas, je dirais, sur la technologie pour mieux stagner sur tout le reste. Comme dans tous les domaines de la société, c'est la thune hein, qui est à la pointe du changement. C'est ça, c'est la Startup Nation. Comme le dirait notre prophète à nous, lève-toi et en marche.
Oh, oui.
Jésus est un trader. Merci Guillaume Meurice. Vous êtes sur France Inter et c'est Alain Bougrain-Dubourg qui nous accompagne jusqu'à 18h. Et en attendant d'écouter Rukyata Wedraogo, voici ce deuxième sujet avec vous. Car les nouveaux Alain Bougrain-Dubourg se trouvent sur YouTube. Les vidéos qui vulgarisent la science, l'art, la littérature rassemblent plus d'audience parfois que certaines émissions de la télévision. Les nouveaux frais déjà mis sont anonymes et réalisent eux-mêmes de courtes vidéos. Qu'est-ce qu'ils sont devenus d'ailleurs ces deux-là avec leur camion?
Hey Jamy, je vais briser tes rêves, mais le Père Noël en vrai c'est un gitan. Il se déplace à d'autres traîneaux poussés par des hérissons. Et les médicaments, bah c'est du poison qu'on nous fout dans les boyaux. Moi je me soigne uniquement avec de l'homéopathie, Jamy. Résultat, je n'ai jamais eu de cancer du col de l'utérus. Figure-toi, Jamy, qu'on n'est jamais allé sur la Lune. Eh oui, c'est Luc Besson qui a filmé le Luberon en pleine nuit, Jamy. On s'y croirait. Et les pyramides, Jamy, ça n'a pas été construit par les Égyptiens. Ça a été construit par les Chinois. Tout n'est que tromperie.
C'est pour ça, c'est parce qu'ils sont devenus complotistes dans les vidéos de Ganesh 2. C'est un article à lire sur slate.fr qui nous explique que les nouveaux frais déjà mis se trouvent sur YouTube. Avec beaucoup de succès aujourd'hui. Alors Alain Bougrain-Dubourg, vous incarnez véritablement la défense des animaux à la télévision, puis dans le militantisme. Ce sont des anonymes ici, donc il n'y a pas de personnalisation. Est-ce qu'on est tenté d'être davantage concentré sur ce qu'ils disent? Est-ce que c'est un avantage, un inconvénient? Quel regard vous portez là-dessus, vous?
Écoutez, le premier constat, c'est de se dire qu'il n'y a pas de détachement. Or, on nous dit qu'avec Internet et tout ça, finalement, on ne lit plus, on ne s'intéresse plus à la culture, à la science, que sais-je. Et tous ces engagements individuels qui vont rayonner comme ça des uns aux autres prouvent le contraire. Et ça, ça me paraît formidable. Et dans le domaine de la biodiversité, qui me touche particulièrement, je constate qu'il y a un engagement extraordinaire des sciences participatives. C'est-à-dire que nous sommes véritablement les enfants de Cuvier, Buffon, Lamarck, tous ces grands naturalistes. Aujourd'hui, il y a plein de gens passionnés. On a créé une structure qui s'appelle Faune France, où l'idée est tout simplement d'identifier des espèces, des insectes, des oiseaux, évidemment, des mammifères, et puis de l'indiquer sur son application et de l'envoyer. Tout ça permet d'enrichir les données du Muséum National d'Histoire Naturelle. Actuellement, on a lancé ça il y a moins de 10 ans. Hein. On est à 50 millions de données. Ça passionne les gens. Alors, il y en a qui se
vouent. Vous faites dans les datas?
Tout à fait. Tout à fait. Mais et donc la science ne serait pas ce qu'elle est, en tout cas au niveau naturaliste, sans la participation de tous ces gens qui après s'expriment sur Internet, sur YouTube, etc. Moi, je trouve ça formidable. C'est une façon à chacun, pour chacun d'entre nous, de s'emparer de ces sujets. Mmh. Et voyez-vous, même sur le thème de la condition animale, c'est fait parfois, Guillaume le sait bien, avec humour, avec
avec des caractéristiques. Peine, hein.
Voilà. Et d'un seul coup, bah, tout le monde écoute, regarde, partage. Moi, je crois en ça pour l'avenir. C'est admirable.
Ce qui est amusant aussi, contrairement à la télévision, ouais. ça fonctionne avec des abonnés. C'est tout comme pour le journal, dont on regrette parfois qu'on ne l'achète pas assez, qu'on n'est pas assez abonné. Ouais. Et là, ce sont des vidéos où on peut s'abonner. Donc, on s'adresse à des gens. Il y a un lien qui se tisse.
Il y a un réseau, il y a une famille qui se crée. Et puis, c'est la chance qui est donnée à tout le monde. Vous voyez, moi, j'appartiens à une génération où j'ai eu la chance de connaître à la télévision, avant, vous parliez de Dorothée, tout ça, avec Patrice Lafont, avec les frères Bogdanov, Laurent Bromet, tout ça. On n'y connaissait rien. On nous foutait à l'antenne. Et puis, on ne nous virait pas. Mais on était mauvais comme des cochons. On nous gardait le temps qu'on apprenne. C'est impensable.
Ça n'a pas changé, nous, c'est pareil.
C'est impensable aujourd'hui. Sauf ici, peut-être, dans cette émission.
Pourquoi les Bogdanov, ils n'ont rien appris à la science, alors? Parce que vous, vous avez baisse en animaux.
Et donc voilà. Bon,
un article à lire sur slate.fr sur cette nouvelle manière. C'est vrai, en art, en sciences ou en littérature, et la caractéristique, c'est qu'il y a beaucoup d'humour, beaucoup d'inventivité dans la manière de transmettre, qui fonctionne aussi très très bien. Alain Bougrain-Dubourg, à vos côtés, elle nous vient de Ouaga, Dougou, Burkina Faso. C'est Rukyata Ouédraogo.
Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la malchance, la déveine, la mélasse, la skoumoune, à propos d'une petite nièce. Enfin, ce n'est pas une nièce directe, c'est la famille Mashlong. Vous savez comment c'est en Afrique, hein. La famille a des contours beaucoup plus flous qu'ici. Si tu tires un membre de la famille par la manche et tu tires bien fort, c'est tout le pays qui vient à toi. Bref. Elle s'appelle Batogma et elle a la poisse depuis qu'elle est toute petite. Batogma a grandi dans un village de brousse bien reculé. Un village où les gens ont entendu parler de l'électricité et de l'eau courante, mais ils ne les ont pas encore vus. À l'âge où elle devait aller à l'école, des gens sont venus voir son père et lui ont expliqué qu'au village, la pauvre enfant n'avait aucun avenir. Mais eux, ils pouvaient trouver un emploi dans une famille riche à la ville. Batogma ferait quelques heures de ménage, garderait des enfants, très très peu de choses, presque rien en réalité. Et les riches, eux, qui sont très gentils, lui achèteraient des beaux vêtements, payeraient sa scolarité et lui apprendraient de bonnes manières de la ville. En plus, les riches enverraient de l'argent tous les mois aux parents de Batogma. Ceux-ci ont donc accepté de laisser partir les filles, contre la promesse solennelle qu'elles seraient toujours bien traitées. Je ne sais pas comment ça se passe d'habitude, mais dans le cas de Batogma, rien n'est passé comme prévu. La pauvre a travaillé jour et nuit pour une famille qui l'a exploitée jusqu'à la moelle. Quant au salaire promis, aux beaux vêtements et à la scolarisation, tu parles du clou, bernique, rien du tout. Pas une seule cacahuète. Alors un soir, Batogma s'est enfui. Mais comme elle n'avait pas un sou en poche, elle a erré dans la rue sans savoir où aller, nulle part. Ça a duré comme ça un certain temps. Elle mendiait un peu, mangeait ce qu'elle trouvait, la misère quoi, jusqu'au jour où un homme l'a repérée et a commencé à la flatter. Il lui a dit qu'elle était bien jolie et qu'il pourrait bien prendre soin d'elle et la présenter à des messieurs qui lui donneraient de l'argent. Il faudrait juste qu'elle fasse des choses, très très peu de choses, presque rien en réalité. Je ne sais pas comment ça se passe d'habitude, mais dans le cas de Batogma, rien ne s'est passé comme prévu. D'abord, au lieu de prendre soin d'elle, l'homme l'a séquestrée et quand à ce qu'elle devait faire aux messieurs, non seulement ce n'était pas rien, mais elle n'a jamais vu la couleur de leur argent. Et voilà notre Batogma devenu esclave sexuel. Mais non, je vous jure, on n'a pas idée à se fourrer dans toutes ces situations pareilles, Batogma, vraiment. Un jour, une autre petite prostituée lui a parlé de la France. Là-bas, les rues sont des diamants, les maisons sont en or et l'argent pousse dans les arbres. Et cette collègue d'infortune, elle avait justement un petit ami qui allait partir en France et qui allait l'amener avec lui. Batogma pourrait venir avec eux si elle le voulait. Non, mais vraiment, cette Batogma, la skoumoune incarnée, quoi. Au lieu d'atterrir en France, elle s'est retrouvée en Libye. Non mais quelle gourde! Là, un gars lui a dit que pour aller en France, il faut de l'argent et qu'elle devrait travailler pour des gens ici, jusqu'à avoir de quoi partir à Paris. Ce seraient des petits travaux pas crevants. Très très peu de choses, pas presque rien en réalité. Il l'a embarquée dans une cour où elle s'est retrouvée enchaînée avec plein de noirs venus de tout pays d'Afrique. Ils étaient battus et marqués comme des animaux. Alors que tous les esclaves étaient achetés par des brutes européens, elle a été approchée par un couple de gens apparemment civilisés. Ils lui ont dit qu'ils étaient diplomates, qu'ils partaient vivre en France. Ils voulaient l'embaucher pour travailler un peu avec eux là-bas. ce seraient des tâches faciles, très très peu de choses, presque rien en réalité. Je ne sais pas comment ça se passe d'habitude, mais si la pauvre Badorma s'est retrouvée à Paris, elle n'en a pas vu la couleur. Elle a vécu dans une cave froide et humide, l'a levée trop tôt le matin et couchée tard le soir. Quant au salaire, tu n'y penses même pas. Mais mon histoire finit bien. Des voisins ont fini par se douter de quelque chose. Ils en ont parlé à la police. Une association a pris Badorma en charge et l'a enfin sortie de sa vie d'esclave. Voilà. Aujourd'hui, on est le 10 mai. On célèbre la journée mondiale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition. Mais je voudrais rappeler que des Badorma, il y en a plein. Et que pour elle, l'esclavage n'est pas encore aboli. Aujourd'hui, je suis désolée, j'ai pas été drôle, mais je promets d'être très drôle la semaine prochaine.
Merci, Rukyata Ouedraogo. Vous avez très bien très fait. Bon. Merci pour ce très joli texte.
Et du coup, vous serez payé aujourd'hui.
Je l'annonce.
Je vais mettre ma poche.
Enfin. Merci, Rukyata. La militante des droits de l'homme et la rigolote, elle est au théâtre du Lucernaire. Jeudi, vendredi, samedi, prolongation jusqu'au 2 juin. Et cet été, vous serez à Avignon. Mais ça, c'est cet été, en juillet, on aura le temps d'en reparler d'ici là.
Il y a une place qui s'est libérée. Gérard Collomb vient de libérer sa place. Il avait pris pour vous. Changer d'avis du coup.
Il viendra pas vous voir.
Ce sketch.
Écoutez, allez-y, il y a une place qui se libère. Prenez-la. Troisième sujet avec vous, Alain Bougrain-Dubourg. Le 5 mars dernier, le Parisien aujourd'hui en France nous apprenait qu'Agathe, la poule de l'Élysée, avait pondu son premier œuf. Pour compléter la ménagerie, il y a aussi Nemo, le chien de monsieur, et il y a aussi le panda de madame qui est toujours à Beauval. Tous bien pratiques quand il faut créer diversion dans les médias. Marrant pour des gens qui vivent dans le marigot politique de ne pas faire comme certains, d'adopter des crocodiles, quoi. Non, je sais pas.
Venez voir mes autres enfants.
Hannibal, Guy, Georges, Jean-Marie, Marine, Mario, toute la famille est là, quoi. Marine est ma préférée. Elle a 27 ans, 6 mois et 3 jours. Bonjour Marine.
Tu leur donnais quoi à bouffer? C'est du bœuf?
Non, c'est de l'opposant politique. Je vous ai piégé. Vraiment.
C'est Thomas Gijol dans Le Crocodile du Botswanga, film de Fabrice Eboué et Lionel Stecchetti. Un article à lire sur l'express.fr qui a observé la communication et l'instrumentalisation, on peut dire, que fait l'Élysée de Nemo le chien, Agathe la poule et Yung-Wen le panda. J'imagine, Alain Bougrain-Dubourg, que cette manière d'instrumentaliser à des fins de communication pour attendrir les gens, pour montrer que le président est humain et que, oh là là, il lui laisse tout faire au chien, il n'a vraiment pas de prise sur lui. C'était ce qui est écrit dans l'article. Ça doit vous agacer, non, j'imagine?
Oui, plus que ça. J'ai eu le bonheur de rencontrer longuement Emmanuel Macron pendant la campagne et je lui ai parlé de deux choses. La condition animale et la biodiversité. Très honnêtement, c'était pas sa préoccupation première, mais comme il est brillantissime, c'est une véritable éponge. En sortant de cet entretien d'un peu plus d'une heure, j'avais le sentiment qu'il avait tout compris. Or, un an après, quand je fais le bilan, je constate que c'est une honte. D'abord, il n'a pas tenu ses promesses. Il y a un déclin de la biodiversité surréaliste, dramatique. Mmh. On a pris conscience de la question climatique. On a laissé de côté le vivant qui nous entoure. Et permettez-moi de penser que pour moi, c'est un crime contre l'humanité, tant il est vrai qu'on ne pourra pas s'exonérer de ce vivant dont nous dépendons. Et on ne fait rien pour ça. Alors Nicolas Hulot, la semaine prochaine, va lancer un plan d'action, je l'espère. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Macron ? Il était voir les chasseurs et il rétablit les chasses présidentielles.
Bon, oui,
merci pour sauver la biodiversité. La chasse aux oies qui, en théorie, s'arrête au 31 janvier, il va les poursuivre tout le mois de février. Je vous signale tout de suite que moi, je vais l'attaquer devant le Conseil d'État et je vais gagner. Ça fait 11 fois que je gagne devant le Conseil d'État. Quand je dis « je », c'est la LPO.
Oui, bien sûr.
Voilà. Mmh. Et on va continuer. C'est ça la réponse au déclin de la biodiversité. Quant à la condition animale, moi, je veux bien qu'il y ait Agathe et Marianne. C'est l'autre poule.
C'est l'autre poule, il y a deux
poules. Je m'en rappelle,
là,
c'est le nom de ma fille.
C'est pour quand ça qu'il l'a choisi.
Mais je pense que c'est
un
hommage à notre conversation. Quand je vois, très franchement, la condition des poules pondeuses, puisqu'on en parle, qui n'ont même pas les moyens de vivre dans la décence élémentaire, enfin, ils ne peuvent même pas ouvrir leurs ailes, c'est complètement honteux. Quand je vois, on a fabriqué des cochons, par exemple, je raconte dans le bouquin, il reste plus que 3 races dominantes aujourd'hui de cochons, et les truies, peuvent donner jusqu'à 20 porcelets alors qu'elles n'ont que 16 mamelles. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait des 4 qui restent ? Eh bien, il y a un truc qui s'appelle la cloison thérapie. Je vous assure que j'invente rien. C'est l'Institut français du porc qui le recommande. On prend les porcelets, on les jette contre le mur. Oh là là. C'est comme ça qu'on
c'est
les
tue. C'est pour voir s'ils sont al dente.
Voilà. Non, bon. Et les autres, les survivants, dingue. C'est pas mieux. On leur meule les dents, on leur coupe la queue et on les castre sans anesthésie. Alors, je voudrais dire, quand M. Macron est honoré au niveau européen, qu'on ferait bien de se tourner vers les Européens qui nous montrent l'exemple sur la condition animale et on est en retard de façon inacceptable. Qu'est-ce que ça soulage de dire ça?
Et ça soulage de vous entendre aussi, Alain Bougrain-Dubourg.
De toute façon, il écoute l'émission maintenant.
À qui on propose de faire le guignolo maintenant?
Oui, on propose un sketch à la fin de l'émission à l'invité, avec un rôle qu'il n'avait sans doute pas prévu de jouer. On fait une petite émission hommage à mai 68. Vous êtes Daniel Cohn Bendit. Vous avez dit que vous aviez 18 ans à l'époque, on est dans le rôle. Comment aujourd'hui on traite mai 68? Guillaume Meurice est le présentateur.
Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous pour ce débat compliqué mais important, mai 68, mais depuis, autour de la table des gens qui l'ont vécu, Roland, ancien gaulliste convaincu.
Salut gauchiste.
Voilà, monsieur Cohn-Bendit, on est en France ici, attention. Hein.
Ah pardon, je ne savais pas, mais je peux pas laisser dire que je suis gauchiste, enfin.
C'est sûr qu'il est plus à gauche de grand monde, le rouquin.
Ok, calmez-vous là, s'il vous plaît. Voilà.
Mais c'est la chenille ici, là. Service militaire pour tout le monde!
Calmez-vous, je n'ai pas encore présenté Michel. Michel était maoïste, trotskiste.
Et philatéliste aussi. Et ne m'appelait pas Michel, mais commandante.
Voilà, ok.
Et moi, je veux intervenir là. Hein.
Une femme!
Non, attendez, on parle de mai 68 ici, madame.
Ah bah, avec le MLF à l'époque, on combattait. Hein.
Bon, allez, sortez-moi, madame, parce que ça nous saoulait. Alors.
Ah bah, quel désordre, moi, sur ce plateau, je déteste ça.
Bon, pour commencer, parlons de l'actualité, ces jeunes qui occupent les universités.
Bah, c'est insupportable! Je déteste les jeunes! Vive les généraux !
Bon, en tout cas, voilà, vous, vos positions n'ont pas changé, a priori.
Les miennes, oui.
Voilà, justement, monsieur Cohn-Bendit, les jeunes d'aujourd'hui.
Ben, qu'ils attendent leur tour pour manger leur petit four, comme moi.
Non, mais pourtant, en 68, vous aviez occupé les facs.
Oui, mais ça n'a rien à voir.
Mais pourquoi ?
Eh, mais parce qu'on se battait pour de vraies raisons.
Mais par exemple, alors, dites-nous.
Par exemple, la mixité dans les dortoirs. Les jeunes d'aujourd'hui, ils veulent juste tout péter.
Ah, mais en 68, il y avait les barricades, les pavés, les autonomes.
Mais c'est pas pareil. Il y a le bon et le mauvais casseur. Vous voyez ce que je veux dire?
Non, que des mauvais casseurs. Remettez Pompidou à Matignon.
Moi, je suis une casseuse.
Non. Demain, on fait un débat sur les jeux télé. On aura besoin de femmes. Mais là, on parle de mai 68. Merci.
Mais mai 68, c'est un truc de bonhomme. Tante Yvonne, était pas au front, à ce que je sache.
Voilà, donc je reviens.
Vive la révolution.
Non, commandante, là, on s'entend plus.
Je veux intervenir. J'ai une journée chargée.
Ah bon?
J'ai manif à 14h. Je soutiens les Rohingyas. À 17h, j'ai un colloque contre la contre-révolution au Venezuela. Et à 21h, j'ai un cours de djembé.
Oh, mais donnez-moi un pavé, là, qu'on l'achève, celui-là, là.
Ah, mais les pavés, c'était nous. D'ailleurs, pour les 50 ans de mai 68, j'ai sorti des pavés collector dédicacés que je vends.
Mais sympa, donne-le-moi, ce pavé.
Non, non, commandant D, ne lancez pas le pavé.
Ça va partir.
Je veux intervenir, les femmes. Aïe.
Bon, eh bien, écoutez, ici s'achève ce débat que j'espère pointu et constructif. À vous, Cognac J'ai.
Merci à tous et merci Alain Bougrain-Dubourg d'avoir joué le jeu. Je rappelle votre ouvrage « Lettres des animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes » aux éditions Les Échappées. Merci beaucoup,
merci
Alain.
Merci à vous tous, vous êtes adorables.
Et voici le mot de la fin à Fabienne Sintès qui arrive juste après nous.
Et tu remarqueras qu'après leur passage, il n'y a pas une crotte. Je me suis bagarré pour y arriver.